Bienvenue dans The Debate. Aujourd'hui, on se penche sur la Serbie et plus précisément sur l'évolution du pouvoir d'Aleksandar Vučić.
Ouais, un sujet assez fascinant en ce moment.
Vraiment. Parce que si on regarde en avril 2022, le président semble être totalement intouchable, il est réélu de façon triomphale et l'Occident est globalement soulagé.
Et pourtant, on voit bien la paralysie actuelle avec ces manifestations historiques du printemps 2026.
Exactement. Donc la question centrale qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment on passe d'une victoire électorale écrasante à un régime qui vacille aussi vite. Moi, je soutiens que le scrutin de 2022 avait vraiment consolidé une forteresse politique absolue et que la crise actuelle découle en fait de chocs totalement imprévisibles.
Et moi, je défends la thèse inverse. Ce vernis de 2022, bah, y cachait en réalité des failles structurelles très profondes. Je suis convaincue que cette forteresse était déjà rongée de l'intérieur, ce qui rendait l'effondrement actuel en fait inéluctable.
Ok, reprenons le contexte de 2022. Face à l'invasion de l'Ukraine, le pouvoir serbe impose un triptyque redoutable. Paix, stabilité, Vučić. Et honnêtement, c'est un coup de maître.
C'est vrai que le slogan a très bien marché.
Il écrase l'opposition centriste dès le premier tour, avec presque 60% des voix face à Zdravko Ponoš, qui fait à peine 17%. Le contrôle médiatique est total, et surtout, l'Occident valide cette hégémonie.
Il ferme les yeux, oui.
Voilà, Bruxelles et Washington ferment complètement les yeux sur la corruption. Ils sont juste terrorisés à l'idée de voir Belgrade basculer dans l'orbite russe. Pour moi, c'était un système verrouillé, de l'intérieur comme de l'extérieur.
Mais attendez, verrouillé en apparence seulement. C'est justement là que votre théorie de la forteresse montre ses limites. Ce score présidentiel, aussi triomphal soit-il, il masquait une véritable saignée politique.
Ah bon, une saignée ?
Bah oui, au niveau législatif. Le Parti progressiste a perdu près de 68 mandats cette année-là. Ils sont tombés à environ 44%.
Oui, enfin, ils ont quand même conservé le contrôle en renouvelant leur alliance avec les socialistes, qui faisait presque 12%. C'est pas rien.
C'est un contrôle de façade. Regardez le référendum sur la justice en janvier 2022. On a eu 70% d'abstention. C'est un désaveu silencieux massif, ça. Et ajouter à cela l'émergence des écologistes avec presque 5% qui ont capitalisé sur le rejet des projets miniers. Le ras-le-bol, il était déjà là.
D'accord. Le parti s'érodait légèrement, je vous l'accorde, mais...
Le contrat social était fracturé à la base.
Mais de là à prédire la chute, c'est un grand saut. Je vois pourquoi vous pensez cela, mais permettez-moi d'utiliser une analogie. Le régime de 2022, c'était comme une digue face à une tempête géopolitique.
Une digue un peu fissurée, non ?
Peut-être, mais les partenaires occidentaux ont renforcé cette digue. Ce n'est pas la petite usure électorale dont vous parlez qui a fait craquer le système. C'est un séisme imprévisible.
Vous parlez du drame de Novi Sad, je suppose.
Exactement, le 1er novembre 2024. L'effondrement de l'auvent de la gare. 14 morts tragiques. Ce drame absolu, couplé à l'inflation énergétique qui a vraiment érodé les retraites, ça agit comme un tremblement de terre.
C'est une tragédie, c'est certain.
Et c'est ce choc exogène qui force la démission du Premier ministre Milos Vučević le 28 janvier 2025. Honnêtement, personne ne pouvait anticiper un tel catalyseur en regardant simplement les urnes de 2022.
Alors là, je vous arrête. Ce n'est pas un choc exogène, c'est pas un accident tombé du ciel.
14 morts de façon soudaine, c'est quand même un choc, non ?
Oui, mais cette gare avait été auditée et approuvée par des consortiums validés par l'État. L'effondrement physique de Novi Sad, c'est en fait la manifestation matérielle et mortelle de la corruption institutionnalisée.
Une corruption qui existait, certes.
Que les journalistes d'investigation dénonçaient déjà activement en 2022. Le béton a cédé pour les mêmes raisons que le système politique est en train de céder aujourd'hui. C'est l'absence totale de responsabilité.
C'est une lecture très déterministe, je trouve. Des infrastructures défaillantes, on en voit exister partout dans le monde sans pour autant renverser un pouvoir hégémonique.
Mais regardez l'anatomie des manifestations ce printemps 2026. Elles ne ressemblent à rien de ce qu'on a vu avant. Elles sont structurées, elles tiennent sur la durée et surtout elles refusent délibérément de se laisser récupérer par l'opposition partisane classique.
C'est vrai que le profil des manifestants a changé.
Moyenne, les mêmes villes qui votaient fidèlement pour les progressistes. Ce glissement prouve bien que la gangrène de 2022 a simplement continué son travail souterrain jusqu'au point de rupture.
Bon, nous convergeons au moins sur un constat troublant. Le calcul géopolitique de l'Occident en 2022 a eu un coût humain et politique faramineux.
Absolument.
En privilégiant une stabilité régionale de court terme, on a laissé s'installer des failles aux conséquences dramatiques. Et l'impact cataclysmique de Novi Sad, il est indéniable.
On est bien d'accord là-dessus. Notre divergence porte vraiment sur la prévisibilité de cette crise. Pour moi, les urnes, les abstentions et les scandales étouffés de 2022 posaient déjà un diagnostic clinique très clair. La chute était inscrite dans l'ADN du régime.
Tandis que, de mon point de vue, le système avait la robustesse géopolitique nécessaire pour durer jusqu'à ce que des événements dramatiques ne fassent exploser ses fondations.
C'est un vrai cas d'école.
Et c'est ici que nous invitons nos auditeurs à poursuivre leur propre exploration. Au final, un système s'effondre-t-il le jour où son infrastructure cède sous le poids de la corruption ou le jour où ses fondations électorales commencent à s'effriter dans l'ombre ? Merci de nous avoir rejoints pour cet échange.